Bonjour à tous.
Bonjour.
J'ai réussi à m'enrhumer alors qu'il fait chaud, qu'il fait beau. Je ne sais pas comment je fais. Mais enfin voilà. Seigneur Jésus, je te prie de bénir cette journée, de ce culte, de ce matin, et que nous puissions nous réjouir avec tout ce que tu vas nous dire et louer ton nom, glorifier ton nom par nos attitudes et nos comportements. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Ça fera 64 ans aujourd'hui que notre frère James Dean est décédé. Il est décédé dans un accident de voiture alors qu'il ne roulait pas vite du tout. Il venait d'être arrêté pour excès de vitesse. Et quelques instants après, sur la route qui le mène à Cholam, là où nous sommes allés, Michou et moi, une route à la tombée en fin d'après-midi, le soleil était bas. Et une voiture qui venait en sens inverse n'a pas vu la petite Porsche, parce qu'aux États-Unis à l'époque, ils n'étaient pas habitués à avoir des petites voitures. Eh bien, cette voiture était éblouie, n'a pas vu la petite Porsche arriver et lui a coupé la route. Il était tué comme ça. Et il n'avait que 24 ans. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer son cousin, Marcus Winsou, à Fermont. Nous étions avec Dominique Boisset, qui est là avec nous ce matin aussi. Et nous avons appris avec certitude que James Dean fréquentait l'église des Quakers et qu'il était véritablement chrétien. Donc, c'était un frère. Et je pense que c'est bien d'honorer aussi la mémoire de cette personne, alors que plein de gens de sa vie se racontent n'importe quoi, n'importe quelle bêtise. Et je pense que c'est bien de rétablir la vérité. Nous sommes allés sur sa tombe avec Dominique et nous étions là avec le directeur du musée, qui est un pasteur à la retraite, un pasteur pentecôtiste à la retraite, qui s'appelle Mark Kinnaman, c'est difficile à dire. Et qui est un ami maintenant, et nous correspondons tous les jours sur le net. En ce moment, ils sont en train de faire une commémoration là-bas. Il y a dans l'église est pleine. Alors vous avez toutes sortes de gens, vous avez les motards, vous avez c'est voilà, il y a plein de gens qui sont là. Ensuite, ils vont aller sur la tombe. Nous sommes allés sur la tombe. Et j'ai été étonné de voir que c'est une toute petite tombe de rien du tout. J'ai dit, comment ça se fait que une star pareille, qui est connue dans le monde entier, et une petite tombe toute minable comme ça. Et le pasteur, Mark Nam et Marcus Winslow, ont dit, mais nous sommes Quakers et nous voulons que tout soit fait dans l'humilité. Donc, Jimmy n'aurait pas voulu une tombe monumentale, et voilà pourquoi cette tombe toute petite est rien du tout, presque rien du tout. Elle était vandalisée, elle était volée, il y a des femmes déglinguées, des boyaux de la tête, comme il y a des chrétiens aussi déglingués, des boyaux de la tête, il y a des zinzins partout, dans tous les milieux, mais on ne juge pas un milieu par rapport aux zinzins qui les fréquentent, d'accord? Donc voilà, alors je pense à la famille là-bas encore aujourd'hui. Le cousin de James Dean, Marcus, a maintenant plus de 80 ans, c'est devenu un gros monsieur. C'est un paysan. Il a une ferme magnifique dans laquelle James Dean vivait. Il a passé son enfance là, il a perdu sa mère, il était placé chez son oncle. Et voilà, donc on a visité tout ça. Et c'était émouvant. Surtout quand on sait que c'était un frère, c'est une découverte pour nous. Voilà, mais c'est pas le but de ma prédication ce matin. Mais je voulais quand même le dire parce que le 30 septembre, c'est une date spéciale. Il faut aussi savoir que peu de chrétiens le savent, mais je vais le dire, que si j'ai épousé Michou, c'est grâce à Dieu, mais aussi grâce à mon père James Dean, parce que un jour, en 68, je suis allé au cinéma voir La Fureur de Vivre avec ma petite fiancée de l'époque. Et puis on est arrivé une heure à l'avance, on s'est trompé d'heure. Et il y avait aussi un jeune homme là qui s'était trompé d'heure. et qui était là. Et on a dit, bon, ben, on va aller boire un café, quelque chose. On l'a invité. Et puis, de fil en aiguille, ma petite fiancée m'a quitté pour... Voilà, c'est comme ça. Donc, grâce à Dieu qui dirige toutes choses, et grâce au fait que je sois allé voir James Dean, je n'ai pas épousé cette fille.
Tant mieux!
Parce que maintenant, j'ai trouvé Michou qui est 10 000 fois mieux. Hein? Donc, quand il vous arrive un problème, remerciez Dieu. C'est toujours, les problèmes sont des bénédictions déguisées très, très souvent. Et je disais ça hier à un pasteur qui est venu nous visiter ici, et il rigolait. Il dit, c'est vrai, vous avez raison. Dieu se sert de toutes sortes de choses pour nous guider, nous diriger. Et je voudrais aussi dire que j'ai perdu un de mes amis qui s'appelait Daniel Sidental, qui est l'homme qui a entendu Raphaël parler à la radio, Raphaël le gitan. Et c'est lui qui est venu me dire, voilà, il y a un gitan qui prêche dans la ville à côté. Si Daniel Sigenthal ne m'avait pas parlé, je ne serais peut-être pas chrétien, je ne vous connaîtrais pas, je ne connaîtrais pas Michou, vous ne seriez pas né. Donc vous voyez, c'est terrible, hein, c'est terrible comment les choses sont. Et voilà, je pense à la famille de Daniel Sigenthal et à tous nos amis, Charlie Muller qui est chrétien et tout ça, avec son épouse Aurora et bien d'autres encore. Vous allez me dire, dis donc, aujourd'hui c'est nécrologique, non. C'est simplement pour parler, pour dire voilà comment les choses de la vie se passent. Il y a souvent des épreuves, des difficultés, mais nous avons une foi rationnelle. Nous croyons que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et nous ne nous laissons pas glisser dans le désespoir, le découragement. On va lire dans la parole vivante, j'aime bien cette version, c'est la version de Alfred Kuhn. Et je voudrais lire dans Romains chapitre 10 et au verset 12 ce matin pour commencer. Seigneur, je te prie de bénir ces paroles que j'apporte. Vraiment, vraiment. Pour que ceux qui sont des contestataires et qui viennent écouter puissent comprendre les choses et que les chrétiens puissent être confortés dans leur foi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Romains 10, 12, je commence. On commence déjà le verset 11. C'est aussi ce que dit l'Écriture. Quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. S'il est dit quiconque, c'est donc que Dieu ne fait pas de différence entre juifs et non-juifs. Il est le maître du monde, le Seigneur de tous, et il distribue ses trésors à tous ceux qui les lui demandent, car quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance? Et d'où viendrait cette foi si l'on n'a jamais entendu parler de lui? Et comment en entendre parler s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle? Mais encore, comment quelqu'un s'arrogera-t-il la charge de proclamer l'Évangile s'il n'a reçu aucun ordre de mission? Qu'il est beau, est-il écrit, de voir venir des messagers de bonnes nouvelles, c'est-à-dire des prédicateurs de l'Évangile. Mais malheureusement, tous n'ont pas accepté cet Évangile. Ésaïe, déjà, se plaignait, disant, « Seigneur, qui ajoute foi à ce que nous prêchons ?» Oui, c'est pas nouveau. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile, et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors, je parlais tout à l'heure de rationalité. C'est quoi être rationnel? Beaucoup de Français me disent, m'écrivent, moi je ne peux pas avoir la foi, je suis rationnel. Rationnel, c'est quelqu'un qui est rationnel, c'est quelqu'un qui se rapporte à la raison, au bon sens. Une personne rationnelle a sa base sur la raison, sur la mise en pratique, sur la mise en œuvre, en action de la logique. En cela, je peux affirmer que depuis le 1er juin 1968, quand j'ai écouté le gitan Raphaël Duval prêcher l'évangile, je suis devenu un homme de foi rationnel. C'est pas du blablabla qui ne porte pas de fruits, qui est impraticable, qui est invérifiable. Non, c'est quelque chose, ma foi est rationnelle. Peut-être ça vous choque. Mais je suis réellement passé, comme dit la Bible, des ténèbres à la lumière que donne, à la lumière qu'est Jésus-Christ. Je suis sorti du flou dans lequel je me déplaisais pas dans ce flou, hein, mais voilà, il y avait plein de questions qui restaient en suspens, et puis pour ne pas trop angoisser, ben, je rigolais, je m'amusais, hein, c'était bien. Je suis sorti du flou, je suis sorti des superstitions religieuses, parce que j'avais ma religion, hein, je faisais partie de la meilleure religion de Suisse, je faisais partie de l'Église nationale de Suisse, c'est pas rien du tout, hein. Et je suis sorti des fausses croyances chrétiennes et autres, parce que j'avais aussi d'autres croyances qui n'étaient pas vraies, justes, bonnes. Et je suis sorti de tout ça. Alors les chrétiens peuvent le comprendre, mais les incroyants ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça, ils pensent qu'avoir la foi, c'est avoir un truc irrationnel, qui n'est pas basé sur la raison. Vous savez, pourquoi ils pensent comme ça? C'est parce que de nos jours, la rationalité des gens a cessé d'être raisonnable. On parle d'évolution des mœurs. Mais ce n'est pas une évolution, ils ont tous rétrogradé. Je suis désolé. Et dans beaucoup de domaines, c'est cela. Il y a une perversion de la rationalité. On appelle ce qui est bien mal, et on appelle ce qui est mal bien. La loi autorise des choses qu'elle condamnait il y a encore 20 ans. Tout est à l'envers. Voilà. Leur rationalité, leur raison, la base de leur raison est devenue déraisonnable. Leur rationalité, c'est une perversion de la rationalité. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas qu'on peut avoir une foi rationnelle. Parce que leur rationalité n'est pas correcte. Leur rationalité, elle est devenue un handicap civilisationnel. Ça se dit, ça? Hein, je crois, oui, ça se dit. Vous savez, le fondement de leur pensée est trop étroit. Chez nous, en Suisse, on a beaucoup de dénominations chrétiennes. Vous savez, les gens ici en France, les catholiques, pensent qu'il y a beaucoup de sectes évangéliques et tout, mais il y a des sectes catholiques aussi. Les jésuites, c'est une secte catholique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les franciscains, les dominicains, tout ça, c'est des catholiques. Mais ils ont des particularités. Mais chez nous, les protestants, on a aussi des particularités. Alors on a, chez nous en Suisse en particulier, un groupe de chrétiens qui s'appelle les frères larges. Mais si vous trouvez quelque chose de plus étroit qu'un frère large, et bien vous avez gagné le yo-yo en bois du Japon avec la ficelle du même métal. C'est incroyable comme ils sont étroits d'esprit. Pas ouverts du tout, rien. Alors, il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être étroit. Le fondement de la rationalité des gens d'aujourd'hui est de plus en plus étroite parce qu'ils croient savoir, mais ils ne savent pas. En réalité, leur savoir, je ne dis pas le savoir des savants, mais je dis le savoir de la majorité de la population, elle est surtout un savoir acquis sur YouTube. Pardon. Écoutez les gens dire « Moi, je crois que ce que je vois. » C'est terrible. Toute notre civilisation judéo-chrétienne est devenue apostate. C'est pas seulement l'Église, c'est notre civilisation judéo-chrétienne qui est devenue apostate. Ce que les gens croient comprendre est très souvent théorique, et leur façon d'envisager le monde et ses mystères, parce que bon, il y a des mystères, des choses qui restent mystérieuses, tout ça c'est abstrait, et ils croient savoir, mais ils savent quoi? C'est des théories, c'est des choses abstraites. Moi, je suis abonné à un truc, une revue scientifique, mais il y a toujours Ah, on vient de faire une découverte qui annule la découverte que nous avions faite il y a 10 ans, parce que maintenant nous avons compris que. Et c'est toujours dans l'abstrait et toujours dans la dans le flou, quoi, comme je disais tout à l'heure. Et puis en plus, cette rationalité n'est plus humaine. Ils mettent tout dans des petits tiroirs de données comptables. Voilà, on comptabilise les choses. Mon Dieu! Et puis en plus, ils sont tristes, en plus. Ils sont tristes, ils s'occupent à faire des recherches qui sont sans rapport avec les réalités de la vie. Il y a des mesures. Je parle avec un frère hier ou avant-hier qui travaille dans une maison de retraite, et il me disait, il est cuisinier là-dedans, et il me disait, mais tous les jours, on jette des kilos de nourriture. Des kilos de nourriture, on les jette, on n'a pas le droit de les donner. Il dit, alors moi je me suis arrangé avec le directeur, alors il dit, ma femme et moi on se nourrit avec. Par exemple, ce soir il m'a dit, on fait du couscous et il est très bon puisque c'est moi qui l'ai fait. Bien sûr, il est cuisinier. Et puis il disait, et là, depuis que je travaille dans cette entreprise, ça fait je crois 2 ans, 3 ans, il dit, on a déjà distribué 700 repas à des nécessiteux. Pas des gens de la maison de retraite, mais des gens qui sont à l'extérieur. Toute cette nourriture aurait été jetée. Le truc, c'est rationnel. Le truc, c'est la raison. C'est basé sur la raison, une telle chose. Non, moi, je trouve pas. En tout cas, c'est pas très chrétien de jeter la nourriture. Et ça, c'est une maison de retraite. Imaginez toutes les autres. Et c'est pareil partout. C'est terrible. Et bon, je parle que de ça parce que j'ai eu l'occasion de parler avec ce frère hier. Je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Mon Dieu! Il s'occupe à faire des recherches qui sont sans rapport avec la réalité de la vie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des trous noirs? Vous avez vu en ce moment, il y en a que pour les trous noirs. Vous n'avez pas remarqué? On n'arrête pas de nous parler des trous noirs. Il paraît qu'il y a 3 trous noirs qui vont se cogner là à quelques milliards d'années-lumière. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça va changer ta vie? Non, on s'en fiche. Ah, peut-être ça va la changer. On ne sait pas, hein. Enfin, non, ça ne va pas la changer. Parce que des trous noirs qui se cognent, depuis que l'univers est univers, ça a toujours eu lieu. Et il y a même des gens qui ne cherchent plus parce qu'ils sont certains d'avoir tout trouvé. Ça, c'est particulièrement les religieux. Mais il y a aussi des gens dans l'art ou dans la musique ou dans même dans certaines sciences qui ne cherchent plus, qui disent « voilà, nous avons tout trouvé ». Mes frères et sœurs, la réalité que Dieu a créée est complexe. Personne ne peut dire « je sais ». Vous connaissez la chanson de Jean Gabin, « je sais ». Aucun vrai disciple de Jésus-Christ peut dire « je sais ». C'est pas possible. On sait des choses, mais on ne sait pas tout. Nous prêchons le plein évangile. Mais ça, c'est la plus grosse bêtise qu'on puisse inventer et dire. Nous prêchons le plein évangile. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Le vrai disciple de Jésus-Christ, il est forcé à l'humilité. Il est forcé à l'humilité à cause de l'immensité des réalités infinies de Dieu. Infinies de Dieu. Un vrai disciple de Jésus-Christ ne se contente pas de simplifier la réalité en créant des doctrines et des dogmes, des petits tiroirs, hein, dans lesquels il est écrit qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, puis si tu fais comme ça, t'es un hérétique, et gnagni, et gnagni. Non. La foi, ce n'est pas calculé pour tout comprendre, la foi, ce n'est pas calculé pour pouvoir tout expliquer. C'est un petit peu ce que je vous disais vendredi passé. J'écoutais l'exposé d'un homme que j'ai bien connu cette semaine, et il fait des calculs savants, il a des raisonnements. Mais ses calculs et ses raisonnements l'empêchent de penser raisonnablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut plus le raisonner. On ne peut plus parler. Il est tellement certain de son truc. Et il se trompe tout le temps en plus. Il se trompe tout le temps. Ça fait des années qu'il nous raconte des bobards. C'est infernal. Il s'est empêtré dans des théories. Il est allé si loin dans ses élucubrations que si vous l'entendrez jamais dire « Oups, je me suis trompé ». Non, c'est nous qui avons mal compris. C'est curieux quand même. C'est quand même curieux. Mais frères et sœurs, je ne suis pas ennemi de la rationalité. Je ne suis pas ennemi de la vraie rationalité. Je suis ennemi de la rationalité qui nous cache la complexité du réel. Je suis ennemi de la rationalité qui empêche les gens de chercher avec humilité. Comme le dit le texte qu'on a lu tout à l'heure, au début, la foi vient de ce qu'on entend dans le sens de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Et en 1968, le 1er juin, après avoir écouté Raphaël, le prédicateur gitan, ma vie a commencé à changer parce que ma foi est devenue soudainement rationnelle. Et elle se renforce chaque jour. Ma foi se renforce. Ma foi rationnelle se renforce chaque jour. Et elle prend appui sur la personne de Jésus-Christ qui seule est la parole de Dieu, la Bible. On dit c'est la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu c'est Jésus. Le livre c'est très bien, on en a besoin, mais c'est pas la parole de Dieu. Il y a aussi Satan qui parle, il y a aussi des prostituées qui parlent, il y a aussi des rois méchants qui parlent, il y a le diable même qui parle dans le livre. Hein. Mais quand même, Dieu a permis que nous ayons ce livre, c'est bien. Mais ma foi est basée sur Jésus-Christ, les apôtres, les Écritures saintes sont pour moi un solide appui. Je ne nie pas les Écritures, j'aime les Écritures, mais attention, je ne m'appuie pas n'importe comment sur les Saintes Écritures. Je vais vous lire un texte. Dans 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. C'est lui seul, donc, le Seigneur, qui nous a qualifiés pour être ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. Or, cette alliance n'est plus basée sur un code de loi écrite, mais sur l'esprit, car la loi écrite mène à la mort. L'esprit, par contre, crée la vie. Ah! Dans d'autres versions, c'est écrit un petit peu différemment. C'est la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est la même chose, mais il faut être très intelligent pour comprendre ce que ça signifie. Alors, merci Alfred Kuhn de nous avoir mis ça en français courant. Ni l'Ancien Testament qui est écrit, la loi qui est écrite, ni le Nouveau Testament qui est écrit avec toutes les lois qui sont écrites dedans, parce qu'il y a des lois dans le Nouveau Testament, où je vous ai fait la démonstration dernièrement qu'il y a des lois dans l'Église, ni le livre de Mormon qui est écrit, ne sont à prendre à la lettre. Paul le dit, la lettre tue. Pourtant, on a besoin de cette lettre, de ces écrits, parce que sans eux, on ne saurait pas ce qui s'est passé, on ne saurait pas ce qui est arrivé, on ne saurait pas que nous avons un Rédempteur, mais sans l'aide du Saint-Esprit, ces lettres, ces écrits, qui peuvent fortifier notre foi, peuvent aussi tuer, nous rendre idiots, nous rendre superstitieux, nous rendre méchants, et même nous rendre criminels. On a vu ça tout au long de l'histoire du christianisme, pas seulement du christianisme, mais de toutes les religions. Qui a tué Jésus? Ce sont des religieux. Des gens qui connaissaient les Écritures, qui se basaient sur les Écritures, pour dire qu'il a blasphémé, il mérite la mort. Qui a tué les protestants? C'est les catholiques, qui se basaient sur la sainteté des Écritures, hein, pour dire que c'était des hérétiques qui allaient les brûler. Qui a tué Michel Servet? Des protestants, qui étaient des religieux, qui se basaient sur les Écritures, en disant que cet anti-trinitaire-là mérite le bûcher. Ils l'ont tué, ils l'ont massacré, les protestants ont fait ça. Hein. Qui a tué Joseph Smith? Des protestants, des catholiques. Oui, voilà. « Oh, s'il te plaît, avec sa secte diabolique et tout, ils l'ont tué dessus, ils l'ont tué. » Qui tue nos frères et sœurs aujourd'hui, un peu partout dans le monde, encore au Burkina dernièrement? Des religieux encore, hein, j'ose dire le nom, des fanatiques islamistes. Je ne dis pas que tous les islamistes sont des criminels, je ne dis pas que tous les catholiques sont des criminels, je ne dis pas que tous les protestants sont des criminels. Mais, si on prend à la lettre les Écritures, ça peut, avec une toute petite déviation de compréhension, conduire à la criminalité. Tous ces gens ont une religion avec des écrits qui, mal interprétés, donnent le droit légal et divin de tuer. au nom de Dieu. La foi rationnelle, c'est la foi qui reçoit sans forcément comprendre, qui reçoit avec humilité et qui met en action des choses que le commun des mortels ne va pas faire. Le commun des mortels ne va pas oindre d'huile un malade pour qu'il soit guéri. Le commun des mortels ne va pas laver les pieds de son frère pour que les péchés de sa journée soient pardonnés. Non. La foi rationnelle, elle a sa base de raison. Sa base de raison, c'est la mise en pratique du message des Écritures sacrées. Mais avec le secours du Saint-Esprit, pas avec le secours seulement de la raison, mais pas non plus sans la raison. Il suffirait d'être un petit peu raisonnable pour comprendre que c'est pas bien d'être les protestants. Les Écritures sacrées nous offrent une ouverture sur une logique qui est différente de celle du monde, de ce monde sage. Où conduit la sagesse de ce monde? La sagesse de ce monde, elle conduit au racisme au nom de l'antiracisme. La sagesse du monde conduit à la violence au nom de l'idée d'une paix universelle. Eh oui! Se vantant d'être sages, dit l'apôtre, ils sont devenus fous. Avec les progrès scientifiques, l'humanité est montée, mais comme au point de vue moral, elle est restée au Moyen-Âge et même encore plus bas, eh bien, après s'être stabilisée dans ses découvertes scientifiques, l'humanité commence sa descente de nouveau et revient à la barbarie, au règne des petits chefs et des grands chefs. Elle renonce aux valeurs du respect de la vie et de la solidarité et de toutes ces choses qui, normalement, raisonnablement, vous voyez, c'est pourquoi je dis leur rationalité est une rationalité pervertie, parce que c'est même plus raisonnable. La rationalité pervertie, c'est ce que le monde sans Dieu brandit comme un étendard face à notre foi rationnelle en Dieu. Notre foi rationnelle, parce qu'on peut vérifier sa logique. Quand on agit par la foi dans ce qu'on comprend de la parole de Dieu, du message de Jésus, des apôtres, des prophètes, la logique de Dieu, on s'aperçoit qu'elle n'est pas la logique des soi-disant sages de ce monde, mais ça conduit à autre chose qu'à cette folie destructrice qui est en train de s'établir de plus en plus sur cette terre. Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, quitter les villes, ça devient de plus en plus dangereux. Et vous allez voir, dans quelques années, ça sera invivable, même peut-être avant. Vous ne voulez peut-être pas me croire, mais tant pis. Alors, vous avez le rationnel perverti, et puis en plus, vous avez les agnostiques. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi, je suis agnostique. Vous savez, ça veut dire quoi, agnostique? La plupart du temps, ils ne savent pas. Mais ils ont entendu ça, ils trouvent que ça fait bien. Je suis agnostique. Le mot agnostique signifie « sans certitude ». Wow. Vivre sans certitude. Aucune. Pas simplement au sujet de Dieu, hein. C'est sans certitude. Ça doit être vraiment rassurant de vivre sans certitude. On va lire ce que nous dit Hébreux chapitre 11, verset 1. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère, c'est-à-dire la réalisation, ça veut dire que ce qu'on espère va devenir réel. C'est pas encore, mais ça va devenir réel. Et la foi, c'est une ferme confiance, une ferme assurance que ce qu'on espère va se réaliser. C'est une manière de posséder déjà à l'avance. Celui qui a la foi, il croit qu'il a déjà avant même qu'il l'ait reçu. C'est vrai que ça paraît idiot, mais c'est beaucoup moins idiot que de vendre des armes à des pays pour ensuite aller les détruire en disant « Vilain, vous avez des armes !»
croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Moi, je suis absolument certain de la réalité de l'infiniment grand et de l'infiniment petit que je ne vois pas. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes bien obligé. Si les hommes autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu, c'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant, et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Alors, les scientifiques se rapprochent de la vérité, parce qu'ils deviennent de plus en plus humbles, et ils disent, il y a eu un bruit, le Big Bang, une explosion. Oui, nous savons ce que c'est. C'est quand Dieu a parlé. Dieu dit que la lumière soit la lumière fut. Quand Dieu parle, c'est là, sa parole est créatrice. C'est sa foi qui a inspiré Abel à un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il fut déclaré juste, grâce à sa foi. Dieu lui a témoigné son approbation en acceptant ses offrandes, bien qu'il soit mort, il continue à nous parler par sa foi. C'est-à-dire, ce qu'il a fait nous enseigne, nous montre qu'il faut écouter les chuchotements de l'esprit pour comprendre ce que Dieu veut, et alors nos actions de foi sont approuvées par Dieu. C'est à cause de sa foi qu'Enoch fut enlevé auprès de Dieu, sans avoir passé par la mort. Un jour, on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il n'est pas question d'être agréable à Dieu. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Mais beaucoup de gens cherchent pour trouver qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils cherchent avec une mauvaise intention. C'est ça qui est bizarre. Il y a une autre version du verset 1 de Hébreux qui dit que la foi, c'est une ferme assurance, une conviction, c'est la garantie, c'est le fondement, c'est la réalisation des choses qu'on espère. Que la foi, c'est la preuve, la démonstration, la certitude, l'absolue conviction des réalités invisibles. Un moyen de connaître les choses invisibles, de percevoir ce qui n'est pas révélé à nos cinq sens.
Moi, je crois que ce que je vois.
Même les scientifiques ne croient plus ce qu'ils voient. Les scientifiques savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leurs cinq sens. Un scientifique sait très bien qu'il y a des lois qui régissent cet univers et que c'est des choses qu'on ne voit pas. Un scientifique qui s'amuserait dans son laboratoire atomique à travailler simplement avec ses cinq sens, en 10 minutes, il fait péter son laboratoire. Un pilote d'avion, hier j'avais un pilote d'avion qui était ici. Et bien, un pilote d'avion, il ne pilote pas son avion en regardant par la fenêtre, dans le rétro. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Maintenant, il n'y a plus que les... Pardon, j'ai encore dit une méchanceté. Mais il n'y a plus que les gens hyper simples, quoi, qui disent « Moi, je crois que ce que je vois. » Bon, ils ne sont pas forcément chrétiens pour ça, je parle des scientifiques, mais c'est déjà un progrès scientifique. Hein, la science fait des progrès. Hein. On dit toujours « La science fait des progrès. » Ah, Sylvie Vartan aussi. Hein, elle a 75 ans, elle fait encore des progrès. Ça fait un peu rire, mais voilà, donc... la science fait des progrès, c'est bien, tant mieux, ça veut bien dire que ce qu'elle nous a dit jusqu'à aujourd'hui, elle peut encore progresser. Les incroyants, conscients de ce qui se passe sur Terre, ont peur. Ils ont peur. Vous avez vu Greta, ou Gerta, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite gamine là, aux yeux terribles. Les gens ont peur, pas nous, n'ont pas peur, nous. Nous savons ce qui va arriver depuis longtemps, puis on le voit s'accomplir, on regarde. Là, ça fait depuis 2 mois qu'on est ici dans cette nouvelle maison, et on n'a pas la télévision. Donc, on ne regarde plus les informations. Ça ne nous manque pas. C'est bizarre, hein. Enfin, on va recommencer à les regarder, puisque à partir de jeudi, on va poser des antennes. Mais bon, les gens regardent et sont effrayés. C'est vrai, c'est effrayant ce qui se passe. Mais nous ne sommes pas effrayés parce que nous savons ce qui va se passer, parce que tout ce qui va se passer, c'est écrit. Et les gens disent, la Bible, vous savez, c'est des histoires, et voilà. Comme vous voulez. comme vous voulez, faites votre vie comme vous voulez. Nous, nous savons parce que nous avons des prophéties. Et toutes les prophéties qui ont été apportées jusqu'à maintenant sont réalisées. Il n'y en reste plus que deux ou trois qui ne sont pas réalisées encore. L'une d'entre elles, c'est que le soleil va s'obscurcir. On vous dit, mais comment le soleil peut-il s'obscurcir? C'est pas raisonnable. Si, vous verrez. Vous verrez. Bon, je vous dirai. Mais bientôt, vous allez voir. C'est terrifiant pour les incroyants, mais c'est un espoir pour les disciples de Jésus, parce que nous savons ce qui va arriver. Vous voyez, ces deux phrases, c'est terrifiant pour les incroyants et c'est l'espoir pour les disciples de Jésus, ces deux phrases nous montrent la distance qui sépare les gens de foi rationnelle des gens qui n'ont pas de certitude, les agnostiques. Le rationnel, il veut tout comprendre. Pourtant, ce qui est vrai ne se comprend pas toujours. Le sens de l'éthique, le sens de l'art. Hier, je parlais avec un pasteur et on parlait de musique. Je disais, ce que j'aime bien dans vos dénominations, c'est que vous n'êtes pas contre la musique. Et il me disait, non, on peut pas. La musique est un don de Dieu. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des musiques, waouh, c'est un peu ténébreux et sulfureux. Je dis absolument. Et comme pour tout, on fait un choix. Mais on ne peut pas dire plus de télé, plus de radio, plus de journaux, plus. Ça, c'est. Mais j'en connais hein, qui vivent comme ça. Le sens de l'art, l'affection fraternelle. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que. L'affection fraternelle, l'amour. Ça ne s'explique pas, on ne peut pas mettre ça dans un tiroir. C'est juste ces choses qui devraient être le fondement de notre société humaine et qui sont en train de s'effriter. La communion fraternelle, dans les églises, ça s'effrite. Il y a une dame qui m'écrit là qu'elle a perdu son mari il y a quelque temps. Elle a perdu aussi d'autres personnes de sa famille à cause du cancer. Elle a un cancer. Elle n'a personne qui vient la visiter pour la réconforter. Alors je dis, mais. Les gens de votre église. Alors elle me dit, j'ai fait appel à une organisation, mais personne n'est venu. Ça s'effrite. Ça a des dogmes, ça a des doctrines, mais ça n'a pas un cœur qui a une raison. C'est triste, hein? C'est triste. C'est ainsi que, au nom de la rationalité, on a créé des mécanismes. On a créé des méthodes, on a créé des protocoles qui ne tiennent pas compte des réalités humaines. On parlait de cette maison de retraite, ça ne tient pas compte des réalités humaines. On pense au fric qui est mis pour la recherche spatiale, alors qu'on va aller chercher s'il y a des martiens, et on va aller chercher si. Alors qu'on ne s'occupe déjà pas des terriens qui crèvent de faim, qui sont dans la rue. C'est un non-sens. Et ils se moquent de nous, ces gens-là. Eux, ils sont rationnels. Leur rationalité est pervertie. Alors, le taux de suicide augmente. Je parlais il y a 15 jours, ici, sur notre terrasse, avec un paysan du village qui me disait que, dernièrement, encore, il y a un paysan qui s'est suicidé, parce qu'il ne pouvait plus, ce n'était pas possible. Tout ça à cause du prix du porc. Il n'arrivait plus à tourner. Il était désespéré. Et au bout d'un moment, et il y en a toutes les semaines. Le taux de suicide augmente. Alors on ne parle pas des dépressions nerveuses, on ne parle pas de burn-out, on ne parle pas des angoisses chroniques, on ne parle pas des tonnes de nourriture jetées, si je vous en ai parlé. On ne parle pas de la course aux armements, si je vous en ai parlé. C'est le résultat de la brutalité, de la rationalité perverse. Voilà. Vous dites qu'on est ridicule, je dis que vous êtes ridicule. Avec votre rationalité et votre agnostisme et toutes ces choses-là. Désintoxiquez-vous de votre manie de tout vouloir calculer et mettre dans les tiroirs. Ça permettra à l'intelligence de notre Dieu créateur d'exister et de se manifester au travers de vous, une intelligence du cœur. Une intelligence du cœur qui ne se prive pas du cerveau. Parce qu'il faut bien le dire, il est bon de rationaliser notre temps, par exemple. Il est bon de rationaliser aussi, par exemple, si je suis mal foutu, si je ne suis pas bien, si je suis malade, eh bien, je vais voir mon toubib. Et puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va suivre une démarche logique, rationnelle, basée sur ses preuves, sur les études qu'il a faites. Et il voit bien que, par exemple, avec mon rhume, il ne faut pas me donner tel et tel médicament, parce que ça n'a rien à voir avec le rhume. Hein? Voilà. Alors oui, il faut gérer certaines choses, avec être rationnel, par exemple, le compte en banque. J'ai une sœur, là, elle a des problèmes. Alors, financier, vous vous rappelez de ce couple qui était venu, là, il y a 2 ans, 3 ans, qui payait pas son loyer? On leur a payé le loyer. C'était bien gentil. Ça venait du cœur, ça venait pas du cerveau, hein, parce que si j'avais réfléchi, j'aurais pas payé leur loyer. C'était des flemmards, ils n'avaient qu'à bosser. À ce moment, c'est difficile. Bon, ils pouvaient pas bosser, mais... Pourquoi ils ne pouvaient pas bosser? Parce qu'ils venaient d'arriver en France, ils étaient du Canada. Et pourquoi ils ont quitté le Canada? Parce qu'au Canada, ils étaient grillés partout. Puis qu'ils se sont dit, en France, il y a le social, on va nous aider. Puis que pouic, faut quand même pas exagérer non plus. La princesse, elle a ses limites. Et puis à la fin, ils nous ont insultés. Enfin, donc il faut agir avec la tête, mais aussi avec le cœur, mais pas seulement avec le cœur et pas seulement avec la tête. Il nous faut gérer nos propres émotions, pas celles des autres. Il faut pas gérer nos enfants, notre famille comme on gère une entreprise. Il faut pas gérer nos amis comme on gère une entreprise. C'est très différent. Obéissons de cœur au Seigneur, à sa parole. Aimons notre prochain, aidons les pauvres. Vivons une foi active qui fait du bien. Là, nous allons bientôt recevoir, le 15, il va arriver, notre frère Nicolas Savanugo, qui est pasteur-maire à Boussé, une petite ville de 50 000 habitants quand même. Et là, il vient de m'envoyer plein de photos. Ils ont fait de nouveau un forage à Boussé. Alors, ça va devenir une ville importante, parce que l'eau, c'est la vie. Hein. Et il a bien compris, donc, voilà. Et on va lui remettre les dons. Il y a des gens qui font des dons, il y en a qui donnent leur dîme, c'est bien, gloire à Dieu. Tout ça, ça va partir là-bas pour faire encore d'autres forages, pour nourrir des personnes. C'est bien. Laissez la vie de Dieu qui est en vous se manifester en toute simplicité. Je vais vous lire un texte, ce sera le dernier, dans Jacques 1, 27. Voilà ce que l'apôtre disait. La religion authentique et irréprochable, c'est celle de Michel Jonton. La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu notre Père consiste à aider les orphelins et les veuves lorsqu'ils passent par l'épreuve et à se garder soi-même sans tache en se préservant de l'influence corruptrice du monde, qui est rationnelle et agnostique. Aimez sans calcul, aimez sans raison, donnez-vous de vous-même sans calcul, avec le cœur, avec raison aussi, il faut réfléchir. La raison et la foi travaillent très bien ensemble. Par exemple, on ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jean, hein, vous connaissez le petit dicton, il faut que ça soit raisonnable. La rationalité d'un disciple de Jésus, c'est une autre logique que la logique de ce monde. Elle était pas mal, la logique de ce monde, jusqu'à ce qu'elle soit pervertie. Mais elle est pervertie. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont rejeté ses lois. Et ils se sont pervertis. Une logique divine. Une logique bonne. Une logique gentille. Voilà ce que c'est que la foi rationnelle d'un véritable disciple de Jésus. Dont l'humanité a cruellement besoin de cela. Mes frères et sœurs de la communauté et vous tous qui écoutez sur le net, eh bien, appliquez-vous à faire partie de ce peuple qui a une foi rationnelle et qui a la véritable religion n'a pas une étiquette en disant « c'est nous qui sommes les meilleurs ». Non, la véritable religion, c'est ce que la Bible dit,
de prendre soin de ceux qui ont besoin.
Voilà, que Dieu vous bénisse.
Amen.
Moi, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant.
Mais pratiquer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire aller poser votre gros derrière dans l'église. Pratiquer, ça veut dire aimer son prochain, venir au secours de la petite vieille qui habite à côté. C'est ça, être pratiquant.
C'est ce que Jésus nous donne,
non?
Mais bien sûr.
Alors voilà, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à bientôt. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs et que cela leur donne à réfléchir et qu'ils changent ce qu'ils doivent changer et qu'ils progressent dans ce qu'ils doivent progresser. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Au revoir.